Vous écoutez, on lit pour vous.
Un message aux prochaines élus, nos souhaits pour le village. Une chronique de Gabriel Rondy, parue le 28 octobre 2025 dans le magazine Fugue. Chers prochaines élus, le village entre dans une période charnière de son histoire. Depuis 5 ans, j'ai la chance d'être entouré d'une équipe passionnée et d'un conseil d'administration engagé, formé de commerçants, commerçantes, d'organismes et d'alliés qui croient profondément au potentiel du village. Chaque jour, nous travaillons ensemble pour améliorer la qualité de vie, soutenir nos membres et faire briller notre quartier. Derrière chaque projet d'aménagement, chaque événement, chaque action de propreté ou de médiation, il y a des personnes dévouées qui mettent leur cœur et leur énergie au service d'un objectif commun, faire du village un lieu où tout le monde se sent bienvenu, fier et en sécurité. C'est en pensant à elles et à toutes celles et ceux qui font battre le cœur du quartier que je vous écris aujourd'hui. À l'aube d'un nouveau mandat municipal et à la suite de l'annonce du grand projet de réaménagement de la rue Sainte-Catherine-Est, je souhaite vous parler directement au nom des membres de la SDC du village et de toute mon équipe. Ce projet représente une étape déterminante pour notre avenir collectif. Dans les prochaines années, des milliers de nouveaux résidents, nouvelles résidentes, viendront s'y installer. Grâce à ces investissements, nous avons une occasion unique d'offrir un milieu de vie et d'affaires encore plus attrayant, sécuritaire et inclusif. Cette transformation donnera un nouvel élan à nos commerçants, commerçantes, à nos organismes et à nos partenaires, tout en consolidant l'identité du village comme cœur vibrant, culturel, économique et communautaire de Montréal. Mais pour que cette vision se concrétise pleinement, je souhaite vous partager 5 priorités claires, concrètes et ancrées dans la réalité du terrain. Pérenniser et renforcer les alliés du village. Notre brigade des alliés, composée d'hommes en réinsertion sociale issus de la maison du père, a complètement transformé l'espace public au cours de la dernière année. Leur présence bienveillante et leur dévouement ont redonné vie à nos rues. Chaque jour, les alliés veillent à la propreté, à l'entretien, à l'accueil des visiteurs, visiteuses et à la médiation sociale. Leur travail dépasse la logistique. Ils redonnent une dignité, une place et une fierté à des hommes qui ont connu l'itinérance. Nous souhaitons que les élus appuient la bonification et l'expansion de ce projet exemplaire, en élargissant le territoire d'intervention aux zones où les besoins demeurent criants et en ajoutant une composante de proximité axée sur le dialogue et la collaboration avec les commerçants, commerçantes et les résidents, résidentes. Les alliés incarnent le meilleur du village, un projet humain, social et urbain profondément montréalais. Faire de la sécurité une priorité partagée. Le village doit redevenir un lieu où toutes et tous se sentent bienvenus. Commerçants, commerçantes, clientèle, résidents, résidentes, travailleurs, travailleuses du sexe, fêtards, fêtardes et familles. La sécurité n'est pas qu'une question d'image, c'est une question de confiance et d'appartenance. Quand les gens se sentent bien, ils reviennent, ils s'attardent et participent à la vitalité du quartier. Malgré les efforts soutenus et remarqués du SPVM, nous souhaitons que celui-ci dispose des moyens humains et organisationnels nécessaires pour adapter ses interventions à la réalité unique du village, dans le respect, la formation et la collaboration. Une rue sécuritaire, ce n'est pas une rue surveillée, c'est une rue vivante, inclusive et habitée. Soutenir l'agrandissement du territoire de la SDC. Aujourd'hui, notre mandat se limite à la rue Sainte-Catherine-Est et à la rue Atatecan. Mais soyons honnêtes, les défis du village dépassent largement ce périmètre. Propreté, cohabitation, sécurité, animation, vitalité économique. Tout cela concerne l'ensemble du quartier. Pour agir efficacement, il faut que notre territoire reflète cette réalité. Nous souhaitons que la prochaine administration soutienne l'élargissement du territoire de la SDC du village, afin que nous puissions intervenir de façon cohérente, concertée et durable sur l'ensemble du secteur. Ce n'est pas une question de structure, mais de cohérence. Pour mieux agir, il faut mieux représenter. Préserver les terrasses en façade, une signature du village. Depuis 2006, les terrasses en façade font partie intégrante de notre identité. Sécuritaires, accessibles et conviviales, elles symbolisent l'art de vivre dehors, ensemble, au cœur du village. Alors que le grand réaménagement de la rue Sainte-Catherine-Est approche, nous souhaitons que ce modèle soit maintenu intégralement. Les terrasses en façade ne sont pas qu'un aménagement, ce sont des lieux de rencontre, d'inclusion et de fierté. Elles font partie de notre culture urbaine et de notre mémoire collective. Les préserver, c'est préserver une manière bien montréalaise d'habiter la rue. Animer le village 12 mois par année. La vitalité du village ne peut pas se limiter à l'été. La piétonnisation permanente nous confère une responsabilité, celle de faire vivre la rue toute l'année. Nous souhaitons que la prochaine administration soutienne une programmation culturelle ambitieuse, stable et financée à long terme pour que le village continue de briller au fil des saisons. Parce qu'un quartier vivant, c'est un quartier qui ne s'éteint jamais. Et parce qu'un Montréal vibrant, c'est un Montréal qui célèbre sa culture, même en hiver. Un symbole à défendre, ensemble. Alors qu'ailleurs, les droits et libertés des communautés 2SLGBTQIA+ reculent, Montréal a le devoir de continuer à faire du village un symbole d'inclusion, de diversité et de fierté. Protéger et développer le village, c'est affirmer haut et fort que la diversité n'est pas simplement tolérée ici, elle est célébrée. L'inclusion n'est pas un mot-clé, c'est une valeur vécue, ancrée dans nos gestes, nos politiques et nos espaces publics. Le village n'est pas qu'un secteur commercial. C'est un lieu de mémoire, de lutte, d'amour et de solidarité. C'est un quartier qui incarne ce que Montréal a de plus humain et de plus courageux. En conclusion, Madame, Monsieur, les prochaines élus, vous avez 4 ans pour écrire un nouveau chapitre de l'histoire du village. Nous espérons qu'à la fin de ce mandat, on pourra dire que le village a changé pour le mieux, que vous avez été à nos côtés, concrètement, et que vous avez saisi l'occasion de renforcer un symbole fort de Montréal. À la SDC du village, nous ne sommes pas apolitiques, nous sommes apartisans, apartisanes. Et cette nuance est essentielle. Nous ne prenons pas parti pour un nom sur un bulletin de vote, mais nous prenons position chaque jour pour défendre un territoire, une vision et une communauté de commerçants, commerçantes engagés. Les 4 dernières années ont démontré qu'un dialogue ouvert et respectueux entre la SDC, les élus et les partenaires pouvait mener à de grandes réussites. Ce dialogue, je souhaite qu'on le poursuive, qu'on le renforce et qu'on l'enrichisse. Parce que le village mérite qu'on s'y engage pleinement, et qu'ensemble, nous pouvons en faire un exemple d'inclusion, d'urbanité et de fierté montréalaise. En toute sincérité, je veux aussi lever mon chapeau à toutes celles et ceux qui se sont lancés dans cette campagne. Peu importe vos couleurs, vous partagez une même envie, faire une différence dans votre communauté. Et ça, c'est déjà précieux. Félicitations pour votre engagement et au plaisir de bâtir ensemble ce nouveau chapitre du village. C'était un message aux prochaines élus, nos souhaits pour le village. Une chronique de Gabriel Rondy, parue le 28 octobre 2025 dans le magazine Fugue.
Surabondance de catastrophes, de moins en moins naturelles, un texte de Alexandre Sirois, paru le 24 août dans la presse. Les brasiers dévastateurs se succèdent à une vitesse inquiétante, ici comme ailleurs. Dans l'actualité, un incendie chasse l'autre, littéralement. Celui qui a ravagé l'île de Maui à Hawaï figure en tête de liste des incendies qui ont marqué les esprits. Et le New Yorker vient tout juste de publier un examen instructif au sujet de ce qui s'est passé sur cette île naguère paradisiaque. La journaliste Elizabeth Colbert, qui est notamment l'auteur du remarquable livre « La sixième extinction », y rappelle que le gouverneur de l'État a qualifié le brasier de « plus importante catastrophe naturelle qu'Hawaï ait jamais connue ». Elle s'empresse ensuite de le corriger. Il serait plus juste, selon elle, de décrire les incendies comme une catastrophe qui n'a rien de naturel, « unnatural ». Parce que l'AENA, ville où plus de 850 personnes manquent toujours à l'appel, était naguère entourée de plantations de canne à sucre. Laissées à l'abandon à la fin du siècle dernier, elles ont été infestées par des herbes envahissantes qui deviennent hautement inflammables en période de sécheresse. Mais aussi parce que les changements climatiques liés aux activités humaines ont contribué à changer la donne. Les températures moyennes à Hawaï ont grimpé de 2 degrés depuis les années 1950, rapporte Elizabeth Colbert. Cela a rendu l'État plus propice aux incendies et, en même temps, a favorisé la propagation des types de plantes qui alimentent les incendies de forêt. Peut-être faudrait-il en effet, désormais, proscrire l'expression « catastrophe naturelle » pour parler des incendies de forêt et autres événements extrêmes. Mise en garde utile, on ne peut pas comparer les incendies de Maui à ceux qui frappent le Québec ou l'ouest du Canada et penser que les situations sont similaires en tout point. Au Québec, par exemple, les incendies dans la forêt boréale ne sont pas une anomalie. Ce qui est possiblement en train de changer, c'est leur ampleur. Pour le Canada au grand complet, on parle cette année d'environ 14 millions d'hectares de forêts brûlées, du jamais vu. Et peut-être aussi leur fréquence. L'avenir nous le dira. Je ne serais pas prêt à dire qu'on est dans une situation apocalyptique, mais si on a 10 ans avec une superficie brûlée comme en 2023, il va falloir penser qu'on est sorti de la variabilité naturelle, nous a dit Yves Bergeron, chercheur à l'Institut de recherche sur les forêts de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Ce qui semble clair, en revanche, c'est qu'à l'instar d'Hawaï, le Québec et le reste du Canada ressentent de plus en plus l'impact des changements climatiques sur la forêt. L'augmentation des températures liées au changement climatique, dont les causes principales sont liées aux activités humaines, provoque des sécheresses potentiellement plus intenses. Celles-ci, pour leur part, font grimper le risque d'incendie. Sans compter qu'en raison des températures plus élevées, le nombre d'orages et d'éclairs, qui sont très souvent à la source des incendies de forêt, est aussi en hausse. C'est ce que faisait remarquer récemment dans nos pages l'expert Edward Struzik. Si la fréquence des incendies augmente, ceux-ci sont susceptibles de perturber le renouvellement naturel de la forêt. C'est ce que les experts qualifient d'accident de régénération. Ça signifie que les arbres brûlent trop jeunes avant d'avoir eu le temps de produire les graines qui sont nécessaires pour régénérer la forêt après les incendies. Le phénomène peut aussi se manifester si le feu détruit une forêt dont les arbres ont été récoltés quelques années ou quelques décennies plus tôt. Les régions où l'épinette noire est en abondance sont particulièrement vulnérables car cet arbre a besoin d'au moins une trentaine d'années pour générer les graines viables qui vont lui permettre de se reproduire. Le directeur de l'Observatoire de recherche régionale sur la forêt boréale, Yann Boucher, nous a communiqué ses plus récentes estimations à ce sujet. Ses travaux indiquent qu'au moins 300 000 hectares de forêt au Québec se dirigent vers des accidents de régénération dans la foulée des incendies des derniers mois. Sachant qu'on replante autour de 50 000 hectares annuellement, le Québec a un gros chantier à prévoir, prévient-il, et des investissements majeurs à faire pour assurer le succès de ce projet urgent. Ce ne sera qu'un juste retour des choses. Si les activités humaines perturbent la régénération naturelle de la forêt, la seule réaction responsable dans les circonstances, c'est de réparer nos dégâts. C'était « Surabondance de catastrophes de moins en moins naturelles », un texte de Alexandre Sirois, paru le 24 août 2023 dans La Presse.
La nouvelle piste cyclable du Pont-Jacques-Cartier reportée à 2055. Un texte de Marco Fortier, paru le 26 novembre 2025 dans Le Devoir. L'ambitieux chantier visant à sécuriser la piste cyclable du Pont-Jacques-Cartier entre Montréal et Longueuil est repoussé au moment du remplacement du tablier du pont dans 30 ans, en 2055. D'ici là, le gouvernement fédéral, propriétaire de cet ouvrage presque centenaire, envisage des travaux mineurs visant à améliorer la sécurité des cyclistes et des piétons, a appris Le Devoir. Cette voie cyclable de 3,4 km est l'une des plus périlleuses en ville. Deux collisions mortelles impliquant des cyclistes sont survenues dans les dernières années sur cette piste étroite, en pente et jalonnée de courbes serrées. Cinq barrières forçant les cyclistes à ralentir entraîne aussi des chutes. L'agence fédérale Pont-Jacques-Cartier et Champlain Inc., PJCCI, a mené des études exhaustives durant 3 ans, entre les années 2020 et 2023, pour déterminer les meilleures façons de bonifier les transports actifs sur cette voie où cohabitent piétons et cyclistes, a rapporté récemment Le Devoir. Les scénarios les plus ambitieux ont été envisagés par des ingénieurs et des architectes. L'élargissement de la piste multifonctionnelle, la construction d'une passerelle qui surplomberait l'intersection de l'île Sainte-Hélène, l'aménagement d'une piste cyclable sous le tablier du pont et même l'élimination d'une voie de circulation automobile pour faire rouler les vélos ont été imaginés. Statu quo amélioré. La société responsable de la gestion du pont a toutefois mis de côté ses ambitieux projets pour une question de coût. La facture des travaux est estimée entre 277 millions et 340 millions de dollars. La transformation de la piste cyclable est reportée au moment où le tablier du pont devra être remplacé aux alentours de 2055, indique PJCCI. L'agence fédérale étudie entre-temps des façons d'améliorer la piste cyclable à un coût raisonnable sans toucher à la structure du pont, indiquent des documents obtenus grâce à la loi sur l'accès à l'information. Un scénario s'apparentant au statu quo amélioré est actuellement envisagé, confirme la Société fédérale dans un courriel au Devoir. Des études préliminaires sont en cours afin d'analyser le comportement des cyclistes et autres usagers de la piste multifonctionnelle du pont Jacques-Cartier. En accord avec la mission de PJCCI, ces études visent à identifier des améliorations locales qui pourraient être apportées en vue de bonifier l'expérience et la sécurité des usagers des transports actifs, tout en maintenant la configuration actuelle du pont. Ce scénario permettrait d'optimiser l'infrastructure en place sans recourir à des modifications majeures, en attendant les travaux de remplacement du tablier prévu à plus long terme, précise PJCCI. Défi de cohabitation. Quels travaux sont envisagés en vertu de ce statu quo amélioré? Un document détaillant ces mesures a été remis au devoir presque entièrement caviardé. Des centaines de pages d'analyse rendues publiques par PJCCI ainsi que des témoignages d'usagers de la piste cyclable recueillis par le devoir permettent d'identifier les améliorations les plus pressantes à apporter. La configuration de la piste montre plus que jamais ses limites, observe François Desmontagnes, porte-parole de l'Association des piétons et cyclistes du pont Jacques-Cartier. Il est extrêmement déçu du report à 2055 des travaux d'amélioration de la piste cyclable, surtout que l'achalandage est appelé à augmenter considérablement à la suite des développements immobiliers prévus des deux côtés du pont. François Desmontagnes remarque que la fréquentation de cette voie a explosé au cours des dernières années. L'expansion de Bixi, notamment des vélos à assistance électrique, amène un nombre considérable de cyclistes sur le pont Jacques-Cartier. L'usage de la trottinette électrique est aussi en forte augmentation. Les touristes sont aussi très nombreux à emprunter à pied la piste multifonctionnelle pour se rendre au parc Jean-Drapeau ou pour observer la ville à partir du pont. La cohabitation entre piétons et cyclistes devient hasardeuse pendant la haute saison touristique sur cette piste extrêmement étroite, d'une largeur d'à peine 2,5 mètres, loin du minimum de 4 mètres prôné par les normes de conception de ce type d'infrastructure. Des irritants à corriger. L'élargissement de la piste paraît essentiel dans ces conditions, mais l'Agence fédérale ne l'envisage pas avant 2055. L'Association des piétons et cyclistes du pont Jacques-Cartier estime qu'un des irritants majeurs est la présence des chicanes, ces doubles barrières qui obligent les vélos à ralentir dans les pentes. Les collisions, parfois violentes, sont fréquentes entre des cyclistes et ces barrières de sécurité, souligne François Desmontagnes. L'éclairage pourrait être amélioré, entre autres près des chicanes, dont certaines sont difficilement visibles pour les cyclistes. Les courbes serrées sont un autre lieu de danger, selon l'Association des piétons et cyclistes. Une des collisions mortelles entre vélos est survenue de nuit dans la courbe située du côté montréalais du pont. L'intersection entre la piste multifonctionnelle et la rampe d'accès à l'île Sainte-Hélène est un autre point de friction entre les automobilistes et les usagers les plus vulnérables. Ce n'est pas pour rien que les plans de PJCCI prévoient la construction d'une passerelle pour piétons et cyclistes à cet endroit. La passerelle aurait aussi pour effet d'aplanir les pentes qui mènent vers cette intersection, ce qui augmenterait le confort des gens à pied ou à vélo. C'était la nouvelle piste cyclable du pont Jacques-Cartier reportée à 2055, un texte de Marco Fortier, paru le 26 novembre 2025 dans Le Devoir.
Pour chaque personne, un vrai droit à la santé. Un texte de Réjean Leclerc, paru le 17 novembre 2025 dans Le Devoir. L'auteur, Réjean Leclerc, est président de la Fédération de la Santé et des Services Sociaux, FSSS-CSN. Cette lettre est la troisième d'une série de quatre portant sur les changements fondamentaux que la Fédération juge nécessaires pour maintenir un Québec en santé. Le manque d'accès aux soins de santé et aux services sociaux, de même que le manque de volonté politique d'agir en prévention, notamment sur les facteurs socio-économiques qui ont des incidences sur notre santé, nous coûte très cher individuellement et collectivement. La situation se dégrade depuis trop longtemps et fait mal à la population. L'heure est maintenant à la recherche de solutions durables. Alors que la santé constitue la priorité numéro un de la population, il est inconvenable que les lois québécoises ne prévoient aucune protection du droit à la santé. Pourtant, en vertu du droit international, le Québec a des obligations et à cet égard pour tous les Québécois. Ce droit implique, entre autres, l'accessibilité et l'universalité des soins, ainsi que la participation de la population aux prises de décisions en matière de santé et de services sociaux. Il y a 50 ans, le Québec s'est doté de la Charte des droits et libertés de la personne. Celle-ci a préséance sur pratiquement toutes les lois et possède un statut quasi-constitutionnel. Plusieurs droits et libertés y sont inscrits, tels que le droit à la vie, à la jouissance paisible de ses biens, au respect de sa vie privée, à la liberté d'opinion, de religion et d'expression. Le respect de ces droits contribue à notre cohésion sociale. Bien que la santé soit une priorité pour toute la population, la Charte n'en fait nulle part mention. Pourtant, une question aussi fondamentale que le droit à la santé devrait être protégée contre les influences, les humeurs et les aléas politiques du moment. Si un tel droit était formalisé, que l'État devenait réellement responsable et qu'il était possible de l'interpeller devant les tribunaux lorsqu'il ne répond pas à l'essentiel, les gouvernements n'auraient d'autre choix que de faire de la santé un chantier prioritaire, pas seulement en paroles, mais aussi dans ses gestes. En le formalisant, l'État devrait mettre en place des méthodes de financement, de prestations et de gestion plus efficaces, basées sur des recommandations d'experts. Il devrait aussi cesser de laisser le privé vampiriser le réseau de la santé. Il devrait combler le manque de ressources dans nos hôpitaux, garder nos médecins dans le réseau public, développer le virage en soins à domicile tant attendu et améliorer l'accès aux professionnels. Nous serions en droit de nous attendre à des décisions politiques visant à rendre le système de santé réellement efficace, sans égard au profit, afin qu'il puisse répondre aux besoins de la population. D'autres droits pourraient être aussi inscrits dans la charte afin de mieux agir sur des éléments qui influent sur la santé. Par exemple, le droit au logement, qui permettrait d'agir en prévention de l'itinérance. En tant que société, nous devrions nous assurer que chaque personne puisse avoir un toit sur la tête avant de subventionner à coups de millions des équipes de hockey ou des usines de batterie. L'actuel gouvernement refuse de prendre ses responsabilités en se cachant derrière des formules telles que « c'est partout pareil dans le monde », « il faut créer de la richesse avant de la distribuer » ou « les enjeux de santé sont des problématiques complexes ». Certes, répondre aux besoins de la population représente des investissements importants, mais ne pas le faire engendre des coûts encore plus grands. Une société incapable de protéger la santé de sa population fera inévitablement face à d'immenses problèmes qui s'accompagneront d'une facture salée. C'est pourquoi le Québec doit mettre en place de puissants incitatifs afin que le gouvernement s'attaque aux réels problèmes plutôt que de multiplier les réformes bureaucratiques qui ont comme seul effet de réduire la responsabilisation, de le déconnecter des besoins de la population et qui font passer le profit avant tout. Le droit à la santé pourrait être cet outil. C'était « Pour chaque personne, un vrai droit à la santé », un texte de Régent Leclerc paru le 17 novembre 2025 dans Le Devoir.